Positive onde.
Eh bien, on va pouvoir commencer.
C'est trop bien.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Il nous reste une demi-heure.
Tout juste.
Est-ce que vous savez où on est ?
Dans une machine à imprimer.
Alors là, on n'est pas dans la machine, mais on est dans un endroit, effectivement, où il y a des machines qui servent à imprimer. Et ces machines, on appelle ça des presses.
Non, nous ne sommes pas dans une machine, même s'il y en a de très grandes.
Cyril Noirjean, je suis le directeur du Jourdain. Alors l'Urdla, pour faire simple, c'est un centre d'art contemporain assez particulier puisque voué à l'image imprimée et que c'est un lieu qui existe depuis 40 ans puisqu'on est dans notre 40e année.
Ce jour-là, exposition, atelier avec des enfants, artistes au travail.
Bonjour à tous, moi je suis Blandine et avec moi, pour faire l'atelier avec vous, il y a Margot ce matin. Alors pour que ça se passe bien, j'ai des petites consignes. On va essayer de rester discret parce que dans l'Urdla c'est ici, hein, c'est ce lieu, il y a d'autres gens qui travaillent, donc on restera tous ensemble tout le temps.
L'Urdla in situ est un lieu en perpétuel mouvement et en évolution permanente, donc on a bien entendu un lieu d'exposition. En fait, on a plusieurs lieux d'exposition à l'Urdla, c'est-à-dire qu'on a un lieu où il y a les grandes expositions qui réunissent soit un seul artiste, une exposition monographique qui va mêler l'image imprimée et des pièces uniques de cet artiste. Et puis, on a différents petits espaces modulables qui sont des petits espaces d'accrochage où on peut faire des accrochages soit de travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'ateliers de médiation, donc dans le cadre d'investissements scolaires, soit aussi des espaces modulables. Donc voilà, il y a toute une partie production, c'est-à-dire impression et édition des œuvres dans les ateliers. Tout un ensemble de monstrations avec différentes modalités d'exposition. Évidemment, on a un espace de librairie qui est une librairie faite sur les affinités électives. Et puis, on vit comme une galerie privée qui va diffuser des œuvres, mais aussi comme un centre culturel. En ayant des ateliers de pratique, des liens extrêmement forts avec le rectorat et l'académie, qui nous permettent de tisser des liens assez fins et très fréquents avec les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées et enseignement supérieur.
Dans l'équipe, il y a deux imprimeurs qui... En fait, les artistes, ils vont graver du bois, du cuivre, ils vont dessiner sur des pierres. Ils vont faire des plaques qui seront comme des tampons. Et avec, les imprimeurs vont imprimer plusieurs fois le même dessin, la même estampe. On va aller découvrir tout ça tout de suite dans l'exposition. Alors, on va s'approcher un petit peu. On va faire un petit jeu de piste pour découvrir l'exposition. Je vais vous confier à chacun à tour de rôle une image et il va falloir retrouver dans quelle œuvre je l'ai prise, cette image. Enzo, tu as trouvé l'œuvre de Katharina Zinke, une artiste qui vit à Berlin, en Allemagne.
Du violet, du rose, du bleu, et c'est tout.
Il y a plein de couleurs. Et vous savez, je vous ai dit qu'il fallait autant de plaques tampons que de couleurs. Alors, est-ce qu'on peut essayer de deviner combien il y en a eu ? Il y a une plaque pour le jaune, une pour le orange,
une pour le violet,
rose,
bleu.
Bleu et violet, c'est la même. Et il y a encore une autre couleur qu'il a fallu imprimer.
Non, noir.
Le noir.
La technique de la taille d'épargne.
Et est-ce que vous devinez, vous voyez cette matière que ça fait, ces traits, à votre avis, la plaque a été en quoi ? Qu'est-ce qui peut faire des traits comme ça ? Elle était... Bravo, on voit que c'était du bois. Vous m'épatez, hein ?
La technique qui s'appelle la taille d'épargne, parce qu'à partir d'une planche, qui est souvent une planche de bois, mais qui peut être du linoléum ou du plexiglas, par exemple, l'artiste va graver et c'est ce qui aura été épargné, qui sera imprimé, qui servira de motif. Donc on fabrique en quelque sorte des espèces de tampons.
Alors on va changer d'endroit et on va traverser l'atelier. Vous allez voir les presses, les grandes machines. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous avez vu celle-ci comme elle est grosse ? C'est avec celle-ci que les fleurs ont été imprimées ou que le paysage canadien avec les tuyaux. C'est sur cette presse-là. Il faut être au moins 4 tellement elle est grande.
Donc ça, c'est le... Ça, c'est le cylindre d'entraînement. Donc il n'y a pas d'encrier ici. Donc on met de l'encre à la spatule ici. Et ensuite, ça va ancrer. Quand on baisse la pression, ça ancre ces deux rouleaux-là. Ça, ce sont les chargeurs, c'est uniquement pour donner du poids. On fait ça, là on voit, ça tourne. Et puis après, donc là on met la pression, la feuille vient ici, elle est prise dans les pinces. Ici on a une pédale qui permet d'ouvrir les pinces, hein, on voit. Donc j'amène la feuille, je mets, et à ce moment-là, je fais un entraînement jusqu'à là-bas.
Elle pèse combien ?
Je crois que c'est 15 tonnes.
15 tonnes ?
Oui. Ça fait beaucoup, beaucoup, hein.
Voilà. Les 4 salariés à temps plein. Et on a un poste de service civique qui est voilà, un dispositif extrêmement aidant pour des structures comme l'URLA. Et on accueille régulièrement des stagiaires pour des périodes longues de stage, pour des périodes de 6 mois, 8 mois. Ce qui fait qu'en réalité, on est quasiment 6 personnes en permanence.
Qui a inventé quand on imprime ?
Qui exactement ? Je ne sais pas. C'était à la fin du Moyen-Âge en Europe, mais dès le 8e siècle en Chine. Ils avaient inventé. Alors, qui est-ce qui veut partir à la découverte de l'œuvre suivante ? Victoire, vous en aurez tous une à trouver. On te suit, Victoire. C'est par là. On regarde bien.
Ah, j'ai trouvé.
On va avancer un peu. Tu l'as trouvé ? On te suit. Alors là, c'est l'œuvre d'une artiste italienne, Giulia Andreani. Bon, c'est facile de reconnaître ce qu'on voit, je crois. Hein. Tu nous dis, Victoire ?
Une fille qui est en train de se balancer.
Voilà, et l'œuvre s'appelle tout simplement La balançoire. Alors Giulia, elle n'a pas gravé du bois, elle a dessiné sur une pierre.
La technique de la lithographie.
Mais c'est pareil, avec la pierre, on peut imprimer, donc il y a 20 exemplaires de cette œuvre.
La plus connue et la plus méconnue qui est la lithographie. En fait, je dis la plus connue parce que tout le monde a entendu parler d'une lithographie, mais qu'en fait personne ne sait ce que c'est, que c'est un dessin fait sur pierre. Et c'est la pierre qui sert de matrice et qui ensuite vient donner son motif au papier. Ça, c'est une des techniques les plus récentes, fin 18e siècle.
Quand on a fait le dessin sur la pierre avec un crayon gras ou avec une encre grasse, on va fixer ce gras sur la pierre. Ensuite, quand on va le passer sur la machine, le dessin est gras, mais l'encre est grasse aussi. Et quand on a fixé, ensuite, la pierre va être tout le temps mouillée. C'est-à-dire que partout, l'eau va s'accrocher où il n'y a pas de dessin. Ce qui fait que quand les rouleaux gras vont rouler sur la pierre, l'encre grasse va se déposer sur le gras du dessin et pas sur le restant de la pierre parce que la pierre est humide. Et ça, c'est le principe de base de la lithographie, c'est la répulsion des corps gras et de l'eau. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on peut être vraiment très précis. Si vous faites un point d'encre, l'encre se déposera uniquement sur ce point et pas sur le restant de la pierre parce qu'elle est toujours humide. Et c'est le principe. Si elle sèche, là vous faites une tache et vous pouvez vraiment abîmer votre dessin. Donc il faut bien faire attention. Pendant tout le tirage, la pierre est humide.
Alors le principe du moment de la fondation de l'URLA, c'est plutôt la réunion d'un collectif d'artistes qui ont eu le désir de sauver de la casse, en l'occurrence les presses lithographiques qui sont dans notre atelier. Et peu à peu, le projet a évolué d'une manière différente. Mais le début, c'est de sauver un patrimoine technique et artisanal.
La pierre est ici. Donc ça, c'est la partie, ça s'appelle le lit, en fait. Et tout ça roule et vient sous les rouleaux. Ça, c'est les rouleaux encreurs. Okay. Tout ça, c'est la table d'ancrage. Ça, c'est l'encrier. Et donc, tout ça vient ici. Donc, la pierre a ancré deux fois. Hein. Elle va venir jusqu'ici. Elle repart. Tout le papier va se mettre ici. Et on met le papier normalement au fur et à mesure. La feuille va glisser, elle est prise dans les pinces, ce qu'on appelle les pinces, ça c'est le cylindre de pression. Ça s'enroule sur ce cylindre de pression et ce cylindre de pression, lui, comme son nom l'indique, vient directement sur la pierre qui est la matrice en fait. Donc c'est une technique de 1795 et l'offset est inventé en 1904, mais l'offset découle directement en fait de la lithographie. En offset, on remplace les pierres en fait par une plaque d'aluminium ou une plaque de zinc. Au départ, c'est plutôt une plaque de zinc d'ailleurs. Et en fait, là, vous avez une impression directe. Hein. La pierre va être ancrée et la feuille va venir s'imprimer directement sur la matrice. Alors qu'avec l'offset, on va mettre moins d'encre, on va plus vite parce qu'en fait, on va imprimer donc l'encre. C'est une plaque sur un caoutchouc et le caoutchouc, lui, va déposer l'encre sur le papier.
Alors oui, si on a déjà entendu parler de la lithographie, par contre, on n'imagine pas, enfin en tout cas, je n'imaginais pas que c'était fait avec des pierres, que le dessin était à la base dessiné sur une pierre. Si on peut s'approcher, allez les voir.
Vous avez trois sortes de pierres. Vous avez des pierres jaunes qui sont avec beaucoup d'oxyde de fer. Celles-ci, elles ont un grain plus rond. Donc on les utilise moins pour faire des crayons, on les utilise plus pour faire de l'encre. Mais sinon, vous avez ce qu'on appelle les pierres blanches, et puis la pierre grise. La pierre blanche est un peu entre les deux, quoi, Donc plus de manganèse, plus d'oxyde de fer, voilà. Ça, c'est les colorations, parce que c'est de la boue au départ. Hein. Donc cette pierre, elle a été grainée. Donc grainée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a passé... donc on se resserre toujours des pierres, hein, bien sûr. Donc une fois que le dessin est fait, tiré, on dégraisse la pierre. Donc il reste toujours une trace du dessin précédent. À ce moment-là, la pierre va sur le grainoir. On met du sable, de l'eau. On frotte avec des gestes précis pour garder toujours la planéité de la pierre. Et puis ensuite, on enlève une petite couche de pierre. On enlève en fait le gras qui a été fixé en surface de la pierre. Et donc à partir de là, on peut réutiliser ensuite, refaire un dessin et recommencer la préparation et ainsi de suite. Une pierre par couleur. Hein, on démultiplie en fait les pierres, les dessins, pour ensuite, comme les encres sont transparentes, par superposition. Hein, c'est simple, si vous avez un jaune et un bleu, vous superposez, vous avez un vert.
La couleur rose et vert.
Déjà avec 3-4 couleurs de base, vraiment, on a vraiment une multitude de colorations possibles. Surtout qu'on peut avoir des dessins extrêmement fins, faits par exemple à l'acré lithographique. Donc vous jouez avec la trame naturelle de la pierre, ça vous donne des choses extrêmement fines et on peut aller dans... toutes sortes de gammes très 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 poussées quoi au niveau de la coloration. Pour la litho, on va utiliser des encres de base pour qu'elles tiennent très très bien à la lumière, ça c'est très très important. Et puis en même temps, elles vont avoir un pouvoir de pénétration dans le papier et d'oxydation, ce qui va accélérer par exemple les séchages, les choses comme ça, suivant, parce qu'on a plusieurs couches hein, de couleurs. Et en fait, donc de ces bases, on a donc un noir, on a un blanc opaque, on a un transparent. On a un jaune, on a deux rouges et deux bleus. Et avec ça, par mélange, on doit faire toutes les couleurs.
C'est pas tant que c'est un endroit où on trouve tous les outils, mais en plus les savoir-faire, donc les imprimeurs, les techniciens. C'est ça qui fait la valeur du lieu. Et donc un cadre de travail extrêmement confortable, puisqu'on n'est pas simplement imprimeur, on est aussi éditeur, donc c'est nous qui supportons les coûts afférents à la production des œuvres. Donc du coup, les artistes sont accueillis ici dans un cadre qu'on pourrait dire confortable ou luxueux, puisqu'ils n'ont à tenir que le rôle d'artiste et pas du tout de technicien. Donc oui, on est très sollicité de ce fait.
Je me rappelle très bien d'Eric Dittmann un jour arrivant en me disant « je veux un rouge ». Mais alors je veux pas n'importe quel rouge, je veux un rouge communiste fané. D'accord, j'ai dit ok, très bien, et qu'est-ce que c'est pour toi? Au moins, il me dit débrouille-toi, tu as bien trouvé. Donc j'ai fait un rouge, puis je l'ai cassé le plus possible au blanc, et je lui ai montré, il m'a dit oh oui, c'est pas mal, oui, oui. Voilà, c'est, en fait, voilà, vous avez des artistes aussi qui peuvent vous dire, par exemple, je veux un bleu acier. Donc c'est vraiment une grosse discussion. La préparation des couleurs, c'est vraiment très très important.
Je vais retourner voir Blandine, Margot et les enfants. Je crois que le tour de l'expo est terminé. C'est l'heure de l'atelier. Nous sommes évidemment toujours à l'Urdla.
Bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un petit temps pour dessiner dans l'exposition. Je vais vous donner à chacun feuille et crayon. Donc vous pouvez dessiner une œuvre à partir d'une œuvre ou à partir de l'histoire que vous vous racontez à partir d'une œuvre. Vous êtes libre. Donc on va prendre un petit moment pour ça et après avec, en quelque sorte, on ira imprimer.
On pourrait diviser le public en deux catégories, un public d'amateurs d'art, collectionneurs d'art, au sens de gens qui viennent ici pour acquérir des pièces. Soit qu'ils suivent les artistes qu'on défend, soit qu'ils sont intéressés par la manière dont l'Urdla fait ses invitations aux artistes et qu'ils viennent tout voir et ils suivent nos choix, enfin, c'est-à-dire qu'ils les suivent, qu'ils les supportent en achetant. Donc voilà, un public d'amateurs collectionneurs et puis un public d'amateurs tout court, je dirais, amateurs de l'art, de culture et qui circulent à travers les expositions. C'est un public mélangé, il y a évidemment un public local de la métropole de Lyon non négligeable, mais c'est un public aussi qui vient de partout en France et de certains pays européens.
Comme on va imprimer à partir de vos dessins tout à l'heure, ça va s'inverser. Est-ce que tu veux écrire à l'envers du coup, pour que tes chiffres y soient à l'endroit? Je vais te faire un modèle si tu veux.
C'est trop mignon, super. Merci.
Bon, après, si vous avez des choses qui s'impriment à l'envers, ça peut être rigolo aussi. Et vous pourrez regarder votre œuvre dans un miroir et ça redeviendra à l'endroit. Super. Tu nous racontes?
Eh bien, c'est un monstre qui voulait regarder le drapeau. Qui est dessus le livre chinois, c'est écrit Montagne 1. C'est le titre de ce livre.
D'accord. On va tous voir avec Tatiana. Donc vous voyez, c'est l'encre pour imprimer. Attention tes mains. Ça, c'est du plexiglas. Ça nous sert de table d'ancrage. Et l'encre, c'est l'encre pour la linogravure. C'est une encre à l'eau, donc qui se nettoie à l'eau.
Là, il est tout rouge.
Aujourd'hui, il y a une artiste qui est présente, qui s'appelle Annelise Coste, qui est une artiste qui vit en France. Mon travail a été beaucoup montré, c'est un travail là qu'on va faire pour une autre structure. C'est un travail d'édition, d'impression qui servira à l'édition de tête d'un livre qui accompagne l'exposition qu'Annelise Coste a actuellement à la Fondation Salomon, qui est une fondation privée qui se trouve à Annecy. Et donc elle est arrivée là il y a quelques heures et on va se lancer dans un travail de taille douce.
Et si je suis bien attentif, mais je suis bien attentif, après la taille d'épargne et la lithographie, la taille douce, c'est la troisième technique que nous voyons aujourd'hui.
À la taille fine.
Non, la taille douce.
Donc là, on a une plaque de métal, de cuivre essentiellement, et on va pratiquer une incision dans ce métal, et c'est le creux, l'incision qui va donner le motif.
C'est une technique habituelle pour vous, là où...
C'est la toute première fois.
Là, en somme, c'est comme si on dessinait presque, sauf qu'on gratte carrément le cuivre.
C'est ça, à même la matière. avec une pointe très pointue. Bon, au tout début, j'y suis allée très fort et Gaëtan, le haut technicien, m'a dit « Tu dois pas y aller si fort. » Et là, j'hésite si je lui mets des feuilles à la main. Mais ouais, allez, aux deux mains. Il y a des feuilles qui lui poussent au bout des doigts. C'est le printemps, quoi.
Tu veux faire un tirage, hein?
Allez, je veux bien, ouais.
On va voir un peu... D'accord. Je vais faire les biseaux, tu vois, parce que les bords sont tranchants.
Ouais.
Ça peut couper le papier. Donc ok. Il est sensible à faire ça. Tu vois. Après, normalement, je dois continuer, mais là, c'est vraiment pour la première essai, tu vois.
D'accord.
Après, il faut faire ça avec du papier de verre, tout ça, mais là, on fera ça quand l'image sera vraiment bien gravée, bien finie, tout ça.
Okay.
Moi, je vais revenir, mais il faut vachement de temps, que là, pour l'instant, on le fait vraiment provisoirement, quoi, tu vois.
Mm-hmm. Parce que si on fait pas ça, ça va carrément endommager le papier.
Ouais, ça peut couper le papier,
tu
vois, parce que le cuivre, il est coupé, je pense qu'on le fait couper à Paris, c'est sur mesure, tu vois.
Ouais.
Et du coup, quand il coupe, je pense qu'il y a un petit, comment on appelle ça
Un biseau.
Ouais, qui se crée à la scie, du coup, et c'est tranchant, tu vois, quoi, tu vois. D'accord. Et c'est vraiment, ça peut vraiment te...
À la presse, ça...
Ah ouais, parce qu'il y a énormément de pression, tu vois.
Ah, ouais.
Et ça peut te couper le papier ou le marquer, donc du coup, c'est vraiment embêtant. Hein.
Je pense que les yeux, ils seront assez noirs.
Ouais. Tu vas devoir peut-être retravailler, tu vois. Si tu veux vraiment quelque chose de profond, quoi, tu veux dire, de marquant, quoi.
Ouais, j'aimerais bien que ça soit prégnant, ouais. Mais on va regarder la...
On va voir, tu vois. Mm-hmm.
L'URDLA est une association de la 1901, hein, fondée en 1978. Et le principe actuel de notre financement, c'est qu'on est largement soutenu par des partenaires publics que sont la région, Auvergne-Rhône-Alpes, donc, la ville de Villeurbanne et l'État, via la DRAC. Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc ça, c'est une part, c'est quasiment les deux tiers, c'est un peu plus des deux tiers de notre budget. Le reste, le tiers restant, provient de la vente d'estampes, de différentes actions, de médiation, de mécénat. Voilà. Ça, c'est les modalités économiques de la vie de la structure.
J'encre la plaque. Et puis après, je viens avec le doigt pour, comment dire... nourrir le trait, insister vraiment lourdement, quoi.
Tu veux dire tu fais pénétrer l'encre ce que j'ai gravé.
Ouais, complètement. Mm-hmm. C'est hyper important, quoi, tu vois. C'est une presse qui est récente, elle a à peu près 20 ans. On a deux gros cylindres pleins, donc ils sont vraiment extrêmement lourds. Et du coup, elle est électrifiée, ce qui est vraiment hyper intéressant.
Moi, je trouve bien.
Hmm?
Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bon, oui, non, j'aime bien ses cheveux et comme ça, c'est bien. Donc, est-ce que je peux retravailler peu plus fort les. Ouais.
Mais là, c'était de la pointe, c'est ça? Pour arriver à un noir plus profond, il faudrait du coup faire des traits dans l'autre sens.
Oui, dans l'autre sens, il faut hachurer. Tu vois.
Dans l'autre sens.
C'est-à-dire que là, tu as fait des traits verticaux.
Ouais.
Parce que le principe de la gravure, c'est vraiment un creux qui donne un noir, un pas creux qui donne du blanc.
Mm.
Et donc, pour arriver à un noir qui n'existe jamais, en fait, physiquement, c'est un faux noir, donc il faut qu'il y ait des traits qui soient proches. Donc, c'est ça.
Ouais, il faut graver.
Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ah, ça peut, oui.
Un poil plus contrasté, là. Et après, je pense...
Parce que du coup, il y a tout ça, on va le garder, là, c'est tout très léger.
Oui, c'est ça.
Ça partira pas. Ça, c'est beau qu'il y ait des trucs très légers. Et après... Et donc ça, là, c'est des trucs de la pointe. C'est du fait de la pointe.
Ouais, c'est la
barbe de la pointe.
Ouais.
Qui va rester aussi.
Ouais. Qui va s'écraser au bout des...
On n'a que 26, donc ça va.
Ça va aller, ouais.
Je m'éloigne tout doucement, je change de salle... Je vais voir les artistes en herbe qui sont en plein atelier.
Alors Tiana, ta mission, c'est de repasser de partout en appuyant bien avec le crayon de couleur pour que le dessin y s'imprime. C'est pareil pour les autres, donc on va chacun vous installer avec la couleur que vous voulez.
Ah, on a du noir aussi.
Ouais, noir, bleu et rouge.
En fait, l'Urdla a deux significations. La première, originale, de 78, quand les fondateurs ont essayé de trouver un nom à l'association qu'ils étaient en train de mettre sur pied. La bande dessinée Raon était très en vue, et dans Raon, il y a un de ses camarades qui s'appelle Urdle, ou quelque chose comme ça, Urdle, ou c'est le cri de Raon, je ne sais plus tout de suite là précisément, qui est Urdre quelque chose. Et donc l'un des fondateurs, aficionado de Raon, a proposé Urdla, parce que ça correspondait au cri de Raon, et que ça pouvait être déplié en union régionale pour le développement de la lithographie d'art. Ce qui très vite nous a posé problème, puisque le régional est compliqué, puisque la plupart des artistes avec lesquels on travaille ne sont pas de la région, que de surcroît, nous ne pratiquons pas que la lithographie, mais les autres techniques. Et donc, en revanche, ce nom Urdla, ça a bien marché, puisque c'est tellement imprononçable que les gens s'en souviennent, et avec un logo assez impactant. Donc ce nom Urdla, nous l'avons conservé, et nous avons essayé de trouver un autre dépliement de l'acronyme, qui pourrait être Utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art.
Voilà, donc maintenant il faut repasser de partout avec le crayon de couleur et ça va s'imprimer de l'autre côté. Voilà, on va enlever délicatement les scotch, tu peux m'aider.
Voilà, vas-y, tire.
Voilà, et puis tu vas pouvoir...
Ah, c'est bon.
Victoire, parfait.
Waouh, super, Lily.
Ah, j'ai pas fait la bouche, je suis bête.
Ah, et ben tu pourras la rajouter au crayon.
Regarde.
Super. Tu peux poser le crayon.
Après ça, va faire quoi?
Je te laisse attraper par là, Tiana. Vas-y, tire.
Ah, t'as vu la bouche?
Après, ça fait quoi?
Ah, ça fait ça.
Alors, vous voyez, son dessin, il s'est imprimé là.
Dans cet épisode, vous avez entendu de courts extraits de chansons des Innocents et des Escrocs, ainsi que des musiques de John Bartman.
Ben moi, j'aimais bien quand on avait fait les dessins qu'on devait s'inspirer dans l'autre salle.
De l'exposition.
Un grand merci à toute l'équipe de l'Urdla pour l'accueil.
J'ai bien aimé quand on a fait avec les cotons-tiges, parce qu'après, les plaques, elles étaient... Il y avait nos dessins qui apparaissaient.
L'Urdla, centre d'art dédié à l'estampe contemporaine, regroupe des ateliers, une galerie d'exposition et une librairie.
207 rue Francis de Présancé, à Villeurbanne.
C'était bien.
L'Urdla relie la sauvegarde d'un patrimoine, le soutien à la création contemporaine et la diffusion de ses productions.
Tout notre catalogue est en ligne sur urdla.com, enfin voilà, sur le site qui, justement, d'ici le mois de septembre, je pense, sera totalement réaménagé, refondu avec une véritable partie de e-commerce.
Ça marche comment ça, c'est fait avec quoi? Alors en fait, ils ont dessiné d'abord et ensuite on a posé dans l'encre, ils ont repassé avec un crayon. Voilà, donc c'est un monotype, et là c'est un monotype, mais cette fois-ci ils ont dessiné directement dans l'encre au coton-tige, et après ils ont pressé la feuille.
Et ça c'est l'image qu'on a dessinée.
Positive Onde sur votre radio préférée, puis sur toutes les plateformes de podcast.
Positive Onde.
J'ai fini.